Bonjour Moda Dieng, on vous avait déjà reçu dans ce podcast pour discuter de ce que c'était que le G5 Sahel, de son potentiel et des raisons pour lesquelles à la fois on l'a mis en place et à la fois il a désormais été démantelé. Mais aujourd'hui, on va discuter en fait d'une institution qu'on a citée, sur laquelle on a travaillé dans l'épisode précédent, qui était l'Union africaine, mais aussi la CEDEAO. Pourquoi ? Nos auditeurs ont peut-être entendu ou vu passer que, là aussi, des États qui nous intéressent, le Niger et le Mali, je crois, se sont retirés de la CEDEAO. Alors, là, je sais que pour les auditeurs, on peut être un peu perdu. Dans un tout premier temps, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est que la CEDEAO, ce qu'est que l'Union africaine, et peut-être dans un second temps nous dire si ces deux institutions, à supposer que ce soit des institutions, ont des liens entre elles.
Merci beaucoup, Vincent. En ce qui concerne l'Union africaine, est une organisation continentale qui couvre tous les pays du continent. Donc, c'est l'organisation la plus vaste, mais aussi la plus influente, en fait, en Afrique. Elle a été le prolongement de l'organisation de l'unité africaine, qui a été créée en 1963. Et au début des années 2000, il y avait en fait une sorte de besoin de changement de perspective en ce qui concerne la lutte contre les problèmes auxquels le continent est confronté en termes de développement économique, en termes d'intégration et en termes de paix et de sécurité. Donc au début des années 2000, les États africains ont tout simplement changé l'organisation de l'unité africaine en Union africaine. L'Union africaine qui est en fait qui a maintenant un plan assez détaillé et qui a mis en place ce qu'on appelle l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui est considérée comme étant une vaste stratégie qui permet à l'Union africaine de résoudre et de prévenir les problèmes de paix et de sécurité qui se posent sur le continent. Pour la CEDEAO, c'est la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui couvre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a cette particularité-là de compter en fait sur tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO a 15 membres, tous donc localisés en Afrique de l'Ouest. Et l'organisation est créée en 1975 à Lagos au Nigeria. Et son objectif, c'est de favoriser une coopération économique entre les pays membres, mais aussi de promouvoir l'intégration sociale, culturelle, mais aussi elle vise ce qu'on appelle l'unité par l'élimination des entraves à la circulation des personnes, des biens et des capitaux. Donc, à l'origine, la CEDEAO est une organisation d'intégration économique, tout simplement. Mais il y a quand même une évolution assez intéressante, une évolution de l'organisation à partir des années 80, parce que l'organisation a commencé tout simplement à travailler davantage, en fait, en ce qui concerne la paix et la sécurité. Je vais revenir peut-être sur ce point-là, mais je
Oui.
vais mentionner les relations qui existent entre l'Union africaine et la CEDEAO. C'est une question assez intéressante. La CEDEAO fait partie des 8 communautés économiques régionales qui font partie de l'architecture africaine de paix et de sécurité de l'Union africaine. Pour dire que l'Union africaine s'appuie sur des organisations régionales en Afrique pour l'intégration économique, mais également pour lutter contre l'insécurité. Et la CEDEAO est l'organisation qui est chargée, en fait, de remplir cette mission-là en Afrique de l'Ouest. Et cette organisation, en fait, a donc des liens de collaboration avec l'Union africaine, ou bien ce qu'on appelle même le principe de subsidiarité. Au lieu que l'Union africaine intervienne directement en Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO, en fait, qui est chargée de faire le travail. Et pourquoi la CEDEAO est chargée de faire le travail? Parce que l'Union africaine considère que c'est plus efficace et plus pertinent lorsque les États qui sont voisins se regroupent. Et puisqu'ils connaissent les problèmes auxquels ils sont confrontés, ils seront donc à mieux de combattre ces problèmes-là. La CEDEAO joue donc le rôle de pilier, je vais dire, de l'Union africaine en Afrique de l'Ouest. Mais c'est une organisation qui est également assez autonome, bien sûr, par rapport à l'Union africaine, du point de vue de son mode de fonctionnement. En termes de sécurité, par exemple, on sait aussi que l'Union africaine a prévu de mettre en place ce qu'on appelle la Force africaine en attente, qui est une organisation, qui est une sorte de force militaire qui doit être déployée pour, par exemple, prévenir lorsque, par exemple, il y a des menaces assez sérieuses de sécurité. Et la CEDEAO est chargée en Afrique de l'Ouest de mettre en place une brigade qui va être une composante de cette force africaine en attente de l'Union africaine. Donc, la CEDEAO peut intervenir, bien sûr, dans le cadre de cette force-là, lorsqu'il y a des menaces de sécurité. Mais on peut également parler des problèmes qui se posent en ce qui concerne la mise en place de cette force-là. Mais quand on maintenant interroge la CEDEAO en termes de paix et de sécurité, bien sûr, il y a une évolution assez intéressante, ce que j'ai noté tout à l'heure. À partir des années 1980, l'organisation a commencé à évoluer parce que l'organisation initialement était une organisation d'intégration économique. Elle a, par exemple, par la suite inséré la dimension sécuritaire dans ses objectifs et a commencé à tout simplement intervenir de manière assez visible, en fait, sur les problèmes de sécurité. On se rappelle, par exemple, l'intervention de la CEDEAO au Libéria en 1990. Il y a eu par la suite beaucoup d'autres interventions militaires menées par la CEDEAO, que ce soit en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, mais aussi l'organisation a également mené des opérations de maintien de la paix en Côte d'Ivoire au début des années 2000 et plus récemment en Gambie. Donc, c'est une organisation quand même qui est plus active finalement dans les problèmes de paix et de sécurité et qu'au niveau en fait de l'intégration économique.
D'accord, mais alors, puisque on a donc là une organisation qui concerne l'Afrique de l'Ouest pour gérer les questions de sécurité, pourquoi est-ce que en 2014, justement, on en a parlé la semaine passée, on a souhaité, les cinq États, le Niger, le Mali, aidés de la France, créer un G5 Sahel? Est-ce que c'était pour préciser encore ce principe de subsidiarité, ou est-ce que, par exemple, certains membres du G5 Sahel n'étaient pas membres de la CEDEAO?
Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs choses en même temps. En fait, la première chose, c'est par rapport au fait justement que certains pays du G5 Sahel, dont le Tchad et la Mauritanie, ne sont pas membres de la CEDEAO. Un autre facteur à mentionner, c'est que certains considèrent que la France a beaucoup joué dans la mise en place du G5 Sahel et de sa force conjointe. Pourquoi la France a choisi de mettre en place de contribuer à la mise en place d'une nouvelle organisation plutôt que de passer par la CEDEAO, qui est une organisation existante et qui a déjà de l'expérience en matière de sécurité. Certains considèrent que la France a choisi, en fait, de contribuer à la mise en place d'une nouvelle organisation parce que ce sera plus facile d'influencer cette nouvelle organisation-là que de passer par la CEDEAO, qui a beaucoup d'expérience. Mais et qui a certains qui a des pays membres assez influents comme le Nigeria, et ce serait difficile pour la France d'influencer la CEDEAO au point en fait d'en faire un principal instrument dans la lutte contre le terrorisme. Donc pour éviter en fait la CEDEAO ou pour contourner la CEDEAO, tout simplement, la France a tout simplement incité les pays du Sahel à mettre en place une nouvelle organisation. Je pense que c'est un enjeu important parce que si on voit l'espace en fait d'intervention de l'opération Barkhane, qui est l'opération française qui a été déployée dans les cinq pays, cet espace-là correspond en réalité aux cinq pays, aux cinq pays du Sahel. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Il y avait la volonté de faire coïncider l'espace d'intervention de l'organisation à celui de l'opération française Barkhane.
D'accord. Et donc, on a un peu les usual suspects maintenant de la région, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les mêmes donc qui ont annoncé en janvier, je crois, le retrait du G5 Sahel. Ils ont annoncé, là je crois qu'on était début février 2024, je ne vais pas vérifier la chronologie, ils ont annoncé souhaiter se retirer également de la CEDEAO. Et on a l'impression, en vous ayant entendu dans cette première partie de l'épisode, que la CEDEAO était peut-être plus efficace que le G5 Sahel, ou en tout cas qu'elle avait une efficience peut-être plus poussée, plus d'expérience en tout cas. Donc qu'est-ce qui pourrait expliquer ce retrait?
Oui, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont contribué au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Le premier facteur, bien sûr, à mon avis, c'est l'insatisfaction par rapport à la CEDEAO. Ces pays-là ne sont pas contents de la façon dont la lutte contre le terrorisme est menée au Sahel. Ils ne sont pas non plus contents de l'attitude de la CEDEAO qui n'a pas mené une opération militaire contre le terrorisme. On se rappelle que la CEDEAO, par exemple, avait déployé une opération militaire, c'était en janvier 2013, au Mali, pour aider l'armée malienne à se reconstituer, mais aussi à lutter contre le terrorisme. Mais cette opération n'a duré que 3 mois. Elle a été remplacée par l'Union africaine, mais par la suite par la mission multidimensionnelle des Nations unies au Mali, la MINUSMA. Pour dire que la CEDEAO n'a pas encore mené véritablement une opération militaire, en fait, contre le terrorisme. Et certains pays, dont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, qui sont beaucoup plus frappés par le terrorisme, reprochent justement à la CEDEAO son inertie et le fait qu'elle n'ait pas été capable, en fait, d'aider ces pays-là dans la lutte contre le terrorisme, ni en matière militaire, ni en ressources financières. Donc la CEDEAO n'a quasiment rien fait. Et le deuxième facteur qui est lié à celui-là, que les pouvoirs militaires au Burkina Faso et au Mali et au Niger ont tout simplement vu que la CEDEAO a été active de l'autre côté, c'est-à-dire en ce qui concerne les pressions pour que les pouvoirs militaires cèdent en fait le pouvoir aux civils, par exemple, dans ces pays-là. Et ils ont constaté que la CEDEAO a été active contre les coups d'État, mais pas véritablement contre, en fait, les menaces les plus préoccupantes, à savoir les groupes extrémistes violents. Donc, ça, c'est le deuxième facteur. Il y a aussi un autre facteur qui est lié, bien sûr, aux régimes politiques eux-mêmes, aux régimes militaires qui sont dans ces pays-là, parce que ce sont des régimes qui ont maintenant l'ambition de rester au pouvoir plus longtemps que prévu. Parce qu'on sait bien que la CEDEAO a une politique assez intéressante en ce qui concerne la prévention et la lutte contre les coups d'État. Elle sanctionne les coups d'État, elle sanctionne également parfois des pays qui ont connu des coups d'État. Donc, je pense que les sanctions ont joué également un rôle important dans la décision du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se séparer de la CEDEAO.
C'est vrai, on peut comprendre que si ils sont dans une institution qui les sanctionne, il y a alors, d'une certaine manière, aucune raison d'y rester. C'est plus ou moins ça.
Exactement, c'est ça, parce que c'est très intéressant parce que lorsqu'un État décide de se séparer de la CEDEAO, donc il doit en fait quasiment notifier la décision, mais également il faudrait un an pour que
Ah
la
oui.
séparation soit effective. Et lorsque les pouvoirs militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont dit qu'ils allaient se séparer de la CEDEAO, ils ont précisé que l'effet est immédiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme certains pays comme le Mali et le Burkina Faso avaient tenu des engagements avec la CEDEAO en ce qui concerne l'organisation d'élections, ça veut dire quoi? Que ces promesses-là n'existent plus. Donc, et que ces pays-là aussi n'auront pas à faire d'autres promesses, en fait, en ce qui concerne l'organisation d'élections. C'est-à-dire que ces pouvoirs militaires, finalement, auront, en fait, le champ libre pour pouvoir rester au pouvoir autant qu'il le veuille. Mais il y a aussi un autre facteur que je rappelle et qui n'est pas souvent assez mentionné à mon avis, c'est le degré d'autonomie de la CEDEAO. Je pense que l'autonomie institutionnelle, je veux dire, je pense que la CEDEAO a vraiment un véritable problème d'autonomie institutionnelle dans la mesure où elle dépend beaucoup de la conférence des chefs d'État.
Donc des États membres, c'est ça, hein, déjà, c'est ça, hein,
Des
déjà
États
un
membres,
impact.
il dépend beaucoup des États membres, et les États membres peuvent exercer une double contrainte, et exercent une double contrainte au sein de l'organisation. Et la première contrainte, c'est que les chefs d'État, surtout les plus puissants, ou bien qui sont issus des pays les plus puissants, ont tendance, parfois, à ne pas faire, à faire en sorte que l'organisation réponde à leurs propres intérêts nationaux, donc en limitant la marge de manœuvre de l'organisation, parce que ce que fait l'organisation ne les arrange pas du tout. Ça, c'est la première contrainte. À mon avis, la seconde contrainte, qui découle toujours de cette influence, en fait, des grands pays, à mon avis, est beaucoup plus préoccupante, en fait, parce que les pays qui sont puissants peuvent également surexploiter l'organisation en faisant
Et
faire à l'organisation
l'instrumentaliser.
instrumentalisée, en fait, en faisant faire à l'organisation des choses peut-être qui ne sont pas véritablement dans dans son champ de prédilection. Prenons par exemple les sanctions qui ont été imposées au Mali et au Niger. Beaucoup considèrent que ce sont des sanctions qui sont illégales parce qu'il y a une sorte d'instrumentalisation de la sanction par des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Sénégal, qui sont assez proches et qui sont aussi des alliés de la France. Et, cela a été souvent dit, en fait, au sein de l'opinion publique de ces pays-là, que les sanctions ont été en grande partie influencées par la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal. Et ces pays-là ont, à mon avis, tout simplement sur-instrumentalisé l'organisation, et cela n'a pas été apprécié par les pouvoirs militaires, mais aussi par l'opinion publique dans ces pays.
D'accord, très bien. Et donc, dans un dernier temps, est-ce qu'on pourrait essayer d'évaluer avec vous les conséquences sur le terrain et dans la lutte contre l'insécurité, un peu comme ce qu'on a fait pour le G5 Sahel, qu'aurait ce retrait donc du Burkina, du Niger et du Mali de la CEDEAO? Est-ce que ça va changer quelque chose sur le terrain, d'après vous?
Oui, pour sur le terrain, pas véritablement, parce que comme la CEDEAO n'avait pas déployé depuis une opération militaire sur le terrain, donc les pays qui se sont séparés de l'organisation n'auront pas un vide à combler de toute façon, parce que la CEDEAO n'était pas là. Par contre, je trouve que le rôle de la CEDEAO est néanmoins important, pour plusieurs raisons, parce que la CEDEAO lutte contre les coups d'État, mais aussi faire en sorte que lorsqu'il y a des coups d'État, qu'il y ait des transitions, que le pouvoir puisse être transmis aux civils. Je pense que la lutte contre les coups d'État participe indirectement à la lutte contre l'insécurité. Pourquoi? Parce que on sait bien que les coups d'État sont une forme de crise politique, et ces crises politiques-là peuvent favoriser, bien sûr, l'expansion des groupes terroristes, parce que lorsqu'il y a une crise politique, un coup d'État, il y a une mobilisation assez importante au niveau de la capitale. Les militaires qui sont censés lutter contre l'insécurité sont préoccupés par le maintien au pouvoir. Il y a des divisions par la suite. Donc, il y a une sorte d'affaiblissement des forces de sécurité. Mais il y a également le fait que les régimes militaires qui arrivent au pouvoir sont plus préoccupés par leur maintien plutôt que par la lutte contre l'insécurité. On voit également que dans beaucoup de pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, on voit par exemple des commandants, mais aussi des gens qui sont dans les institutions militaires, mais qui occupent des positions assez stratégiques et qui s'étaient engagés sur le terrain dans la lutte contre le terrorisme. Beaucoup d'entre eux ont été nommés à des postes de responsabilité dans la gestion de l'État, qui sont obligés finalement de venir dans la capitale, d'occuper des postes, et d'avoir aussi, en fait, d'autres militaires qui assurent leur sécurité. Et je pense que cela a réduit encore davantage la capacité des pays à lutter contre l'insécurité, parce que les forces de sécurité sont divisées, sont mobilisées pour la gestion de l'État, et finalement, il ne reste pas grand-chose, en fait, dans les forces de sécurité, surtout en termes de commandement, voilà, avoir une véritable stratégie de lutte contre le terrorisme sur le terrain. Donc, en termes de perspective, il n'y a pas assez de visibilité, en fait, parce que la coopération régionale n'est pas véritablement avancée, parce que ce qui reste actuellement de la coopération, c'est l'Alliance des États du Sahel, et c'est une initiative qui est nouvelle, donc ça prend beaucoup de temps avant qu'elle prenne de l'envol. Il y a également, de notre côté, ce qu'on appelle l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra est une initiative qui est ad hoc également et qui a été mise en place par certains pays du Sahel, comme le Burkina Faso, et qui inclut également des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont des pays côtiers et qui sont davantage touchés par l'extrémisme violent. Donc, cette initiative-là a été mise en place, mais c'est une initiative également qui est davantage contestée, ce que j'ai pu noter au Burkina Faso, par exemple, que l'initiative est davantage contestée parce que certains États considèrent que elle porte, en fait, les problèmes ou bien les tares de la force conjointe du G5 Sahel en termes d'autonomie, mais aussi en termes de ressources financières.
D'accord. Un tout grand merci, Mona Dieng, pour donc ce cours particulier pour nos auditeurs sur un peu l'architecture sécuritaire et institutionnelle en Afrique. Je pense vraiment que c'est utile, nécessaire et donc que ce sera apprécié d'avoir comme ça des clés pour comprendre un peu ce qui s'y joue. Donc un tout grand merci pour votre temps et j'oriente les auditeurs, votre discours a intéressé, à s'orienter vers la description de cet épisode dans laquelle j'aurai glissé quelques références signées de votre plume ou codirigées par vous notamment, afin qu'ils puissent continuer de creuser ça. Un tout grand merci.
Merci beaucoup pour l'invitation. Ça
Au
fait un
revoir.
plaisir. Au revoir.
Bonjour, Moda Dieng. On vous avait déjà reçu dans ce podcast pour discuter de ce que c'était que le G5 Sahel, de son potentiel et des raisons pour lesquelles à la fois on l'a mis en place et à la fois il a désormais été démantelé. Mais aujourd'hui, on va discuter en fait d'une institution qu'on a citée et sur laquelle on a travaillé dans l'épisode précédent, qui était l'Union africaine, mais aussi la CEDEAO. Pourquoi? Ben, nos auditeurs ont peut-être entendu ou vu passer que là aussi, des États qui nous intéressent, le Niger et le Mali, je crois, se sont retirés de la CEDEAO. Alors là, je sais que pour les auditeurs, on peut être un peu perdu. Dans un tout premier temps, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est que la CEDEAO, ce qu'est que l'Union africaine, et peut-être dans un second temps nous dire si ces deux institutions, à supposer que ce soit des institutions, ont des liens entre elles?